Le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Vigilance sur le taux de plomb des riverains de Notre-Dame. L'Agence régionale de santé a dévoilé les derniers résultats. Sur 160 enfants testés, 18 présentent des taux supérieurs à la normale. Le chantier, lui, est toujours à l'arrêt. Les livreurs parisiens de Deliveroo se rebiffent. Un collectif appelle à la grève contre la décision de la plateforme britannique de supprimer le tarif minimum pour une course. Témoignage d'un livreur dans ce journal. Zoom sur la future bataille des municipales, direction Toulouse ce matin, où le maire sortant Jean-Luc Moudenque est le grand favori, mais ça ne sera peut-être pas si simple. Donald Trump n'est pas le bienvenu à El Paso. Le président américain se rendra aujourd'hui dans l'Ohio et au Texas après les tueries du week-end dernier qui ont fait 31 morts. Les habitants d'El Paso se souviennent de ses déclarations incendiaires contre les Mexicains. Elle était la conscience morale de l'Amérique. Toni Morrison, la romancière afro-américaine, lauréate du prix Nobel de littérature en 1993. Son héritage, son engagement, son œuvre, on en parle avec vos invités Pierre Veil.
Christine Laferrière sera avec nous, traductrice des derniers ouvrages de Toni Morrison. Dominique Bourgois sera au téléphone, éditrice des livres de la prix Nobel de littérature 1993. François Bunel nous rejoindra, présentateur de la Grande Librairie, directeur de la rédaction de la revue America. Il a interviewé Toni Morrison. Il y a un an, elle parlait notamment de Donald Trump. Et puis nous aurons en ligne Christiane Taubira. Elle est en Guyane. C'est une lectrice passionnée des romans de Toni Morrison. 11 romans. Si vous voulez en parler avec nos invités, témoigner sur l'œuvre fantastique de cette romancière, appelez-nous 01 45 24 7000 ou envoyez-nous des courriels sur franceinter.fr.
France Inter. C'est le feuilleton de l'été, le chantier de Notre-Dame de Paris. Interrompu depuis le 25 juillet, il ne reprendra pas aujourd'hui comme annoncé. Les travaux de dépollution commenceront la semaine prochaine. En attendant, la pression monte sur les autorités, accusées d'avoir réagi tardivement sur les dangers du plomb dégagé par l'incendie de la cathédrale en avril dernier. L'Agence régionale de santé vient de dévoiler les résultats complets des analyses faites sur les enfants du quartier, des dépistages volontaires et non pas systématiques. 1 sur 10 présente des taux de plomb dans le sang qui appellent à la vigilance. Delphine Efnou.
Au total, depuis l'incendie du 15 avril, ce sont 162 enfants qui ont vu leur taux de plomb contrôlé. Parmi eux, 16 se situent dans le seuil de vigilance entre 25 et 50 microgrammes de plomb par litre de sang. Et deux autres sont au-dessus de ce seuil. L'un était déjà connu, l'autre vient d'être signalé par un médecin traitant. Il s'agit d'un élève de primaire de l'école Saint-Benoît, fermé fin juillet à cause d'une concentration de plomb élevée dans les cours extérieures. Ce n'est en revanche pas le cas de sa petite sœur scolarisée au même endroit. Tous ces enfants font l'objet d'un suivi individuel. Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence régionale de santé, appelle à se faire dépister mais reste rassurant.
On n'est pas sur un impact sanitaire majeur. On a deux cas au-dessus de la norme réglementaire. Aujourd'hui, on peut dire qu'en volume, l'immense majorité est satisfaisante, mais on doit suivre et on va continuer à investiguer. Et effectivement, plus on va faire d'investigations, plus on va peut-être identifier de cas.
Pas de quoi satisfaire les associations qui ont encore alerté lundi sur les risques de la pollution au plomb. Elles rappellent, tout comme l'Organisation mondiale de la santé, qu'il n'y a pas de concentration dans le sang qui soit sans danger. Le collectif continue de réclamer un confinement total du chantier pour éviter la propagation des particules de plomb.
Les salariés et les clients d'un hôtel du quartier du Marais à Paris expulsés manu militari. La scène s'est passée vendredi après-midi. Épisode d'une guérilla qui oppose les nouveaux propriétaires de l'hôtel Picard à son gérant. D'un côté, on invoque l'urgence à évacuer un bâtiment qui risque de s'effondrer, quand le gérant, lui, dénonce un coup de force pour le chasser et installer un hôtel de luxe. Le récit de Sarah Guibaudot.
Pour Benjamin Vergne, l'un des employés, la scène commence comme dans un film.
J'ai remarqué qu'une des caméras de surveillance ne filmait plus du tout la rue. J'ai vu 5-6 ouvriers, tout s'est fait très vite, ils ont monté dans les étages, démonté les portes.
La réceptionniste et les femmes de ménage restent sidérées. Les nouveaux propriétaires demandent aux clients de faire leurs valises pour les reloger un peu plus loin. Le gérant Louis Kirsch se précipite.
Ils ont tout cassé, ils ont tout coupé. L'eau, l'électricité.
Il alerte son avocat Jean-Alex Buchinger.
J'ai vu des ouvriers qui rentraient, qui sortaient, qui cassaient avec des marteaux-piqueurs. On était en plein Far West.
Les propriétaires soulignent qu'en avril, un expert a jugé l'immeuble dangereux au vu de sa solidité. Pour leur avocate Prune Schimmel, il faut consolider le bâtiment.
Voilà mes clients qui se retrouvent avec un rapport qui dit on risque 50 morts, possibilité d'effondrement. Ils ont averti la mairie, la préfecture et le procureur de la République. Ils ont décidé de réaliser les travaux de solidification.
Aucune décision de justice n'a pourtant autorisé cette expulsion de fait. Et si l'hôtel Picard est modeste, les architectes de la ville n'ont pas vu péril en la demeure. Le gérant pense que les nouveaux propriétaires veulent le chasser pour faire un hôtel de luxe. Ajouter une acquisition contestée sur fond de conflit familial, cela fait beaucoup de choses que la justice devra démêler.
Voilà, un récit complet à retrouver sur notre site franceinter.fr. En Malaisie, les recherches s'intensifient pour retrouver Nora, 15 ans. Cette jeune franco-irlandaise a disparu dimanche de l'hôtel où elle était en vacances avec sa famille dans une zone de forêt tropicale. Ses parents redoutent un enlèvement. Ce sont les forçats des temps modernes, les coursiers de la plateforme de livraison de plats cuisinés Deliveroo protestent contre la baisse de leur rémunération. Plusieurs dizaines de ces livreurs à deux roues se sont rassemblés hier soir, place de la République. Un appel à la grève est lancé. La plateforme britannique a notamment supprimé le tarif minimum pour une course. Résultat, des revenus en baisse pour les livreurs. Bastien Dequeninck a suivi l'un d'eux.
Arrivé au pied d'un immeuble, Bruno garde son scooter et sonne chez un client qui vient de commander une pizza. Le trajet a été rapide. 2 kilomètres en tout entre son point de départ, le restaurant et l'adresse de livraison. Une course qui va lui rapporter
4,35 €.
Et déjà, les nouveaux tarifs se font sentir.
Avant qu'ils baissent la rémunération, on était à 4,80 € minimum.
Et quand il discute avec ses collègues, Bruno s'inquiète encore un peu plus.
J'ai vu des collègues en train de faire des commandes à 3,20 €.
Deliveroo assure que ce nouveau système rémunère mieux les livreurs qui acceptent les commandes sur de longues distances, mais ce n'est pas l'avis de Bruno.
Ça nous arrange pas parce que y a beaucoup de petites commandes et vraiment personne ne prend des grandes commandes.
Car deux petites trajets seront plus rentables qu'un seul grand et avec leur statut d'auto-entrepreneur, les comptes sont vite faits à la fin du mois.
En brut, je fais entre 2000 et 2400. Et après les charges et récits, ça fait à l'entour de 1500, 1600 en faisant 50 heures par semaine.
Ce soir, Bruno manifestera avec ses collègues livreurs. Il espère bien faire changer d'avis des Deliveroo.
Il faut juste leur faire peur un petit peu. Parce que là, ils n'ont pas peur.
À peine quelques minutes que nous parlons et le téléphone de Bruno sonne. C'est Deliveroo qui s'inquiète de ne pas le voir se déplacer. Il repart aussitôt. Pas question de risquer une mauvaise évaluation.
Un reportage de Bastien Dequeninck.
Corinne, direction Toulouse pour la suite de notre série sur les enjeux des élections municipales dans le 6-9 de l'été cette semaine.
Oui, Toulouse où le maire LR Jean-Luc Moudenc semble en position de force, mais son cas pose question autant dans son parti, les Républicains, qu'à La République En Marche, Adrien Serrière.
Jean-Luc Moudenc navigue entre deux eaux. Lui, le Macron compatible, est en si bon terme avec la tête de la majorité qu'elle ne devrait pas lui opposer de candidat. Pourtant, le maire de la Ville Rose ne rend pas toujours la pareille. Aux européennes, il avait raisonnablement soutenu François-Xavier Bellamy, la tête de liste de son camp, les Républicains. Une position ambiguë à l'heure où sa hiérarchie veut clarifier les choses. Christian Jacob a donné le ton, il n'y aura pas d'accord LR-LREM. Ce coup de pression n'a pas de quoi faire vaciller le locataire du Capitole, lui qui n'a de toute façon plus d'ambition ailleurs qu'à Toulouse et encore moins au sein d'un parti politique. Jean-Luc Moudenc est sûr de sa force, les sondages le placent très haut, la gauche toulousaine est morcelée, il ne s'agenouillera donc devant personne d'un côté comme de l'autre. Avec La République En Marche, les négociations sont ouvertes, ce qui a aussi pour résultat d'irriter tout un pan des marcheurs toulousains qui se seraient bien vus prendre un peu de lumière à l'occasion de ces municipales. Certains regrettent que le mouvement d'Emmanuel Macron n'ait pas opté pour la même stratégie qu'à Bordeaux, un candidat LREM face à un compatible, une victoire peu probable, mais une première pierre posée pour les échéances futures.
Voilà, les élections municipales, c'est dans 7 mois, en mars 2020. 10 départements du centre-est restent en vigilance orange aux orages. La Haute-Loire et la Loire sont particulièrement touchés. La circulation des TER est très perturbée ce matin entre Montbrison et le Puy-en-Velay. La station de Monistrol-sur-Loire, près de Saint-Étienne, a reçu 120 mm de pluie en moins de 6 heures. Un record, c'est l'équivalent de 51 jours de pluie. Et puis sur le front des incendies, Pouilly, le feu de forêt de l'Ablachère dans le sud de l'Ardèche est fixé ce matin. 250 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes.
Il est 8h10, le journal Corinne Audouin. Corinne, c'est une nouvelle affaire des biens mal acquis. Elle vise cette fois le fils cadet du président congolais Denis Sassou Nguesso.
Oui, selon l'ONG britannique Global Witness, Denis Christel Sassou Nguesso aurait détourné en 2014 plus de 50 millions de dollars de fonds publics du Congo-Brazzaville. Grâce à un montage financier complexe, l'argent aurait servi à financer le mode de vie fastueux du fils du président Nathanaël Charbonnier.
Officiellement, dans l'entourage présidentiel, on ne souhaite pas commenter les faits avancés par Global Witness. Pourtant, l'ONG ne prend pas de gants dans ses accusations. Elle explique ainsi que le fils du président, Denis Christel, surnommé Kiki le pétrolier, aurait détourné à son profit pas moins de 50 millions de dollars. Un exploit réalisé en partie grâce à un mélange des genres bien particuliers. Denis Christel Sassou Nguesso est en effet député, mais il a été aussi directeur adjoint de l'aval pétrolier de la Société Nationale et administrateur général de l'unique raffinerie du pays. Le pétrole représente 80% des ressources économiques de l'État. Un mélange des genres entre politique et économie qui aurait abouti, selon l'ONG, à du blanchiment. Mais d'autres enquêtes impliquent aussi la fille du président pour à nouveau des montants exorbitants. Enquête en Suisse, mais aussi en France, c'est ce qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis. Il faut savoir qu'au Congo-Brazzaville, la moitié des 5 millions d'habitants vit en dessous du seuil de pauvreté.
Et l'ONG va transmettre ces éléments à la justice française qui a ouvert une enquête sur les biens mal acquis de la famille Sassou Nguesso. Une voiture piégée a explosé ce matin à Kaboul en Afghanistan devant un commissariat de police. Il y a au moins 34 blessés. Les talibans ont annoncé hier qu'ils feraient tout pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 septembre prochain. Donald Trump, attendu à Dayton et à El Paso, trois jours après les fusillades qui ont fait 31 morts et des dizaines de blessés dans ces deux villes de l'Ohio et du Texas, le président américain risque d'être accueilli assez froidement, notamment à El Paso, dans cette ville frontalière où plus de 80% des habitants ont des origines mexicaines. On n'a pas oublié les discours de campagne du candidat Trump sur les Mexicains violeurs et criminels, des paroles qui ont pu influencer le tireur d'El Paso. C'est ce que pense Carlos, ce jeune père de famille rencontré par Grégory Phillips.
Avec la position qu'il occupe, je pense que ses mots ont de l'importance. Ce qu'il dit peut influencer les gens. Celui qui a commis ça est jeune, 21 ans. Et ce type de personne est facilement influençable, perméable à la rhétorique et aux propos de Trump sur les problèmes de frontières, par exemple. On a besoin de frontières, mais pas de la manière dont Donald Trump présente les choses, pas de la manière dont certains nationalistes blancs voient les choses. Vous savez, le tireur ne venait pas du Mexique. C'est quelqu'un de l'intérieur. Est-ce que je fais confiance aux politiciens pour régler ce problème des armes à feu? Non, ils n'ont rien fait jusque-là. Je pense que maintenant, c'est la responsabilité des gens de voter pour quelqu'un qui agira enfin. Vraiment, il est temps de faire quelque chose. Il y a eu trop de morts. Beaucoup trop.
Un propos recueilli par Grégory Phillips. Et puis elle était l'une des figures de la conscience morale de l'Amérique et farouche opposante à Donald Trump. La romancière et essayiste Toni Morrison s'est éteinte à l'âge de 88 ans. Seule femme noire à recevoir un prix Nobel de littérature en 93. Petite fille d'anciens esclaves, elle a toute sa vie écrit sur l'identité des noirs américains. Elle était une source d'espoir pour beaucoup de lecteurs, mais aussi d'écrivains, comme le romancier Daniel Picouli, interrogé par Mayol de Charon.
Moi, je suis d'origine martiniquaise, donc j'ai quelque part un Picouli zéro qui est parti d'Afrique, et donc on reste très très lié à ce type d'origine-là. Et quand j'étais gamin et que je voulais écrire, je me sentais pas autorisé à le faire parce que je ne voyais pas d'écrivain qui me ressemblait. J'avais comme modèle Chester Himes. Mais ce que je veux dire, c'est que Toni Morrison a une valeur littéraire qui est incontestable et reconnue par tous, mais qu'elle a une valeur symbolique de ces gens qui sont déterminants, qui vous font penser que c'est possible. Et Toni Morrison, par sa surface, son volume, ce personnage, ont donné du souffle à tous les rêves de plein de gosses de toute nature, de toute origine, et qui se sentent concernés.
Toni Morrison, son œuvre, son engagement, son héritage, on en parle à 8h20 avec notamment sa traductrice et son éditrice française. Et puis c'est un héros très discret, Egan Bernal, le vainqueur colombien du Tour de France. Il célébrera cet après-midi son titre, le premier pour un Sud-Américain, dans sa ville natale de Zipaquirá. Mais c'est lundi soir qu'il est rentré au pays, à Bogota, Najet Benrabah. La fête a débuté dans le vol de retour vers la Colombie avec du champagne et un message surprise de remerciement de la compagnie aérienne du pays, Avianca.
Egan Bernal, nous savons qu'il n'a pas été facile d'arriver là où tu es et que ton titre de champion du Tour de France est le fruit de tes sacrifices, de ta détermination et de ta ténacité. Aujourd'hui, tu es un modèle pour les nouvelles générations. L'Amérique latine est fière de te voir couronné premier champion du continent. Pour cela, au nom de toute la Colombie, nous voulons te remercier d'hisser le pays au sommet. Santé et bonheur.
Félicidades et salut.
Puis une fois sur le tarmac de l'aéroport de la capitale colombienne, Bogota, Egan Bernal a été reçu avec une haie d'honneur des employés. Le cycliste de 22 ans a été ensuite escorté vers un hélicoptère pour se rendre directement à Zipaquirá, sa ville natale, où malgré l'heure tardive, environ 23h30, des fans l'attendaient. Najed Benrabah, France Inter, Medellín.
Voilà, vous l'avez entendu, on dit Zipaquirá. C'est Anthony Bélanger qui m'a dit ça se prononce comme en français, tout simplement. Je suis démasqué, je ne parle pas espagnol.
C'était le journal de Corinne Audouin.